Bienvenue à vous qui venez d'entrer dans la deuxième partie de C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle du Grand Paris. Pour celles et ceux qui l'ont manqué, nous avons parlé actu, des sculptures de prunes nourries et du dernier jeu vidéo Neva dans la première partie. Allez l'écouter si vous l'avez manqué. Et pour cette deuxième partie, nous nous lançons dans la musique de Stilto, dans l'univers du réalisateur Bong Joon-ho avec Mickey 17 et nous parlons des femmes dans l'architecture. Je suis toujours avec Jeanne, Diane, Hugo, Chloé et Marie-Lou. C'est parti pour ces découvertes artistiques.
Art visuel,
art médiatique,
art de la scène.
C'est dans l'art sur Radio Campus Paris.
Allez, continuons avec la section musique. Cette fois, c'est Diane qui va nous parler. Elle va nous parler du nouvel album de Stilto intitulé Fille lacrymale, c'est à toi.
Ouais, alors pour commencer, je sais pas vous, mais moi il y a des questions que j'adore poser en soirée ou en date pour éveiller les discussions. Dans mes questions préférées, il y a si tu pouvais organiser un dîner de rêve avec les personnes de ton choix, qui ce serait et vous mangerez quoi? Ou encore, si tu pouvais remonter le temps, tu dirais quoi à la toi d'il y a 10 ans?
Ah oui, il faut répondre là tout de suite. Ok, donc c'est les tu fais quoi dans la ville, les comment tu vas, qu'est-ce que t'as mangé ce midi, des choses très basiques, c'est ça?
Ouais, c'est très philosophique, quoi. Mais en même temps, moi, je fais des dates très philosophiques, tu vois, Léa. J'aime
me plonger.
Et moi, ma question préférée, c'est quoi la dernière chose que tu as faite pour la première fois? Et je pense que c'est cette question que s'est posée Stilto, de son vrai prénom Laure, qui, un beau jour de novembre 2021, s'est dit « La vie est trop courte pour ne pas se lancer dans une nouvelle aventure, celle de la musique ». Stilto, de base, elle est créatrice de contenu. Les réseaux sociaux, c'est un peu comme son journal intime, mais pas très intime. Et malgré sa grande popularité sur les réseaux, elle a eu très peur de se lancer dans une nouvelle aventure. Elle avait déjà fait quelques reprises par moment avec des amis, mais assumer pleinement ce statut de chanteuse, compositrice, interprète, bah, c'est une nouvelle paire de manches. Alors pour vous rendre compte de ce que ça fait, je vais prendre un exemple. On va prendre une personne qui a l'habitude de parler, de prendre le micro, et je dirais même de passer à la radio, Radio Campus Paris par exemple. Tiens Léa, demain, si toi tu devais chanter devant 1400 personnes, tu serais hyper confiante.
Moi, j'en doute pas une seconde. Mais je peux comprendre que pour certains, ça doit être vraiment intimidant.
Bah voilà. Ça, c'était un peu l'état de Stilto quand elle a voulu se lancer dans la chanson. C'était son rêve depuis toute petite. Mais c'est toujours impressionnant et très stressant de débuter une nouvelle aventure, surtout celle-ci. Alors, pour ne pas fausser les choses, mentir à sa communauté ou encore se lancer dans des projets plus grands qu'elle, elle a toujours été honnête. Elle a commencé avec des reprises de 30 secondes publiées sur Instagram, réalisées avec les moyens du bord. Et c'est avec une reprise de Ben Mazué, Gaffe aux autres, que tout a commencé.
Et alors, il s'est passé quoi après?
Eh bah, bien, sa reprise, tout en douceur et en simplicité, a touché en plein cœur sa communauté. Mais aussi Ben Mazué. Il l'a invité à jouer sur scène durant une de ses dates de tournée. Et depuis, il l'a soutenue et partage même avec elle un morceau sur son nouvel album, Fille lacrymale. Moi, ce que j'aime chez Stilto, autant l'influenceuse que l'artiste musical, c'est son côté bonne pote. Toujours là pour te faire rire et te soutenir. Stilto, c'est le genre d'ami qui, pour arrêter de te faire pleurer, va t'inviter à faire une balade avec son chien Soki. Loin des paillettes, des réseaux, de la superficialité des tapis rouges, elle joue l'honnêteté la plus profonde. Elle décide d'accepter qu'elle n'est pas toujours parfaite dans sa chanson Dans la moyenne, que parfois elle est juste bof. Elle défend l'idée qu'on n'est pas obligé d'être la meilleure version de soi-même tout le temps.
Et alors son nouvel album, il parle de quoi?
Et bah ce premier album, c'est un vrai condensé d'émotions. C'est autant des pleurs avec Fille lacrymale, des ruptures d'amitié avec Ok Très Bien en feat avec Louane, ou bien son rapport au corps avec Cicello. Moi, j'ai découvert Stilto via sa cover de Ben Mazué sur les réseaux et j'ai tout de suite accroché à son univers, sa personnalité et son authenticité. Alors, je ne saurais que vous conseiller d'aller écouter Fille lacrymale, de la voir en concert et de suivre son contenu sur YouTube pour découvrir les coulisses de son aventure musicale. J'ai eu la très bonne idée de la voir deux fois en concert et je peux vous dire qu'on ressort avec les yeux mouillés, mais aussi avec une très très grande envie de danser. Donc, si vous voulez prolonger le plaisir, vous pouvez d'ores et déjà prendre vos places pour sa tournée qui débutera en avril 2025.
J'irai pas sur la lune, je changerai pas le monde. Je sais, je suis pas nulle, mais parfois je me sens comme une ombre. J'irai pas sur la lune, je toucherai pas le ciel. Je sais, je suis pas nulle, mais je suis dans la moyenne.
Un album qui a vocation à réconforter son public et faire des câlins à ceux qui en ont besoin. Merci beaucoup, Diane.
De rien.
Alors, passons aux réactions. Vous connaissiez, vous, Stilto, l'influenceuse, avant ses chansons?
Absolument pas. En bonne milléniale que je suis, je ne la connais pas du tout. Mais c'est drôle parce que toute cette thématique autour de la moyenne, ça me fait penser à un spectacle de Camille Giry que j'avais vu, qui s'appelle Moyenne, justement, où elle explique que c'est du stand-up. Mais voilà, je trouve la thématique super intéressante.
Hugo, ça t'inspire quoi ?
Eh ben moi, je connaissais Stiletto.
Wow, bien joué !
Parce que j'avais écouté justement les covers qu'elle avait fait, notamment celui avec Arcadia. Arcadia, feu groupe que j'aimais bien. Et je crois que j'ai écouté certaines chansons de l'album, puisqu'elle popait parfois dans certaines de mes playlists aléatoires. Et j'aime beaucoup Stiletto, j'aime bien son ton assez doux. J'avais écouté notamment la reprise avec Ben Mazuet. Surtout que j'aime énormément Ben Mazuet.
Tu n'es pas le seul.
C'est un artiste qui m'accompagne depuis pas mal d'années. Donc j'étais très content de découvrir une reprise d'une très grande qualité. Et je savais pas par contre qu'ils avaient été en contact par la Suisse et tout. Et donc je trouve que c'est une histoire très belle. Et pour rebondir sur la moyenne, moi ça me fait penser au livre de Guillaume Meurice, Petit éloge de la médiocrité.
Ah oui, c'est vrai qu'il avait fait un petit peu de bruit, je me rappelle. Oui. Chloé, qu'est-ce que ça t'évoque tout ça?
Bah honnêtement, je ne connaissais ni l'un ni l'autre. D'accord. Donc c'était une découverte. Après je suis moins sensible, je pense, à ces codes-là des réseaux sociaux qui mettent beaucoup en scène voilà le quotidien, l'honnêteté, il y a ce terme d'honnêteté qui est beaucoup revenu aussi d'un peu d'esthétique de la sursimplicité. Voilà, je pense que ça me touche moins.
D'accord. Jeanne, on en pense quoi tout ça?
Ouais, je crois que je suis un tout petit peu...
Je te vois sceptique.
Non, c'est pas sceptique, mais j'écoutais Diane qui disait qu'elle avait été séduite par Stiletto quand elle était encore influenceuse sur son apparente proximité à sa communauté, son honnêteté affichée. Et il y a une petite part de moi qui est un peu méfiante sur est-ce qu'on est vraiment authentique, honnête quand on affiche son quotidien sur les réseaux, ça reste une mise en scène, ça reste... Enfin voilà, c'est juste parce que je suis pas très sensible aux influenceurs, sans être... Je suis
et
pas
une grosse boumeuse, hein,
mais voilà, mais ça me pose un peu la question sur comment on... Je pense que c'est une personne qui a défini sa personnalité sur cet axe-là de je suis authentique, je suis honnête, mais est-ce que c'est vraiment qui elle est? Après, sur le côté musique, ça a l'air très sympa et je serais heureuse de découvrir ce qu'elle fait, mais j'ai une petite méfiance comme ça, mais qui vient juste d'un... parce que je suis... un peu aigri.
Eh ben écoutez, que vous soyez convaincu ou non, on vous invite quand même à aller découvrir l'album Fille lacrymale de Stiletto, sorti la semaine dernière. Il est disponible partout. Merci Diane de nous avoir fait cette recommandation.
De rien.
Vous écoutez C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle de Radio Campus Paris sur le 93.9 FM à Paris et dans sa région.
C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle de Radio Campus Paris.
Allez, passons tout de suite au cinéma avec Hugo. Tu nous présentes Mickey 17, le dernier film du sud-coréen Bong Joon-ho.
Et oui, me revoilà pour une deuxième chronique. Après avoir dû remplacer au brûle-pourpoint Mati, le chroniqueur initialement prévu, malheureusement mort dans la bataille qui opposa Léa à Fabrice.
C'est bon, allez, avançons.
Et pour lui rendre hommage, je souhaite faire une seconde de silence. Voilà, maintenant que nos morts sont enterrés, passons à un film où ils ne le sont pas toujours. Mickey 17 de Bong Joon-ho, le réalisateur de Parasite, qui fut la Palme d'Or 2019 et un récit de lutte des classes, nous offre un film poignant, mais avant toute chose, un petit extrait de la bande-annonce.
Vous postulez pour devenir un remplaçable ? Vous avez lu tout le formulaire.
J'aurais dû tout lire. À chaque fois que je meurs, il me réimprime.
Mickey Barnes se battra jusqu'au bout.
Mon grand cadeau à l'humanité.
Alors Hugo, il parle de quoi ce film ?
Eh bien c'est un film de SF, science-fiction, où les humains sont partis coloniser d'autres planètes et disposent donc d'une technologie de pointe. Et notamment une, celle de créer des remplaçants, c'est-à-dire du clonage humain, de la reproduction d'humains morts. Et notre héros, Mickey 17, 17 car justement c'est le 17e clone, et il est donc mort 16 fois avant, sert de cobaye à différentes expériences dans l'objectif de coloniser une nouvelle planète. Et on suit donc ses péripéties qui mèneront à... Oh, non, je spoil pas.
Alors, tu nous dis que dans le précédent film de Bong Joon-ho, il y avait cette question-là de la lutte des classes. Est-ce que c'est un aspect qu'on retrouve dans Mickey 17 ?
Eh bien oui, justement. Mais le film l'est moins frontalement. Parce qu'au premier plan, il aborde d'abord des questions philosophiques, notamment sur ce que pose l'existence de ces clones humains et de, finalement, cette résurrection et l'existence qu'ils peuvent admettre d'avoir plusieurs êtres humains qui sont les mêmes. Mais cela est en fait une façade qui permet de dérouler une critique en sous-thème du colonialisme et du fascisme qui fait étrangement, écho à des événements actuels comme, je sais pas, le génocide à Gaza, Trump ou le coup d'État raté en Corée du Sud, dont justement est issu le réalisateur. C'est un thème qui est pourtant est disséminé tout le long du film et qui apparaît vraiment pour moi dans certaines scènes clés qu'il ne faut pas rater. Donc voilà, je vous offre ces clés. Soyez attentifs aux détails. Le fascisme est déjà là, pas uniquement dans Mickey 17.
Au-delà de ça, c'est un film décalé, bourré d'humour et de what the fuck, à voir si l'on veut du changement dans notre quotidien. Merci Hugo. Vous l'avez vu, vous, ou pas, Mickey 17? Ce qu'il est à l'affiche partout, mais vous avez pris le temps pour l'instant, Jeanne?
Pardon.
Pas du tout, moi.
Pas encore, mais j'ai une petite question pour Hugo, si je peux me permettre.
Allez.
J'ai juste entendu des critiques en parler et j'ai entendu, alors je ne l'ai pas vu, je ne peux pas confirmer ou pas, qu'il y avait toute une allégorie sur Trump. Sur ce leader qui part coloniser Mars parce qu'il a eu des déceptions sur Terre, mais j'ai aussi entendu que le film avait été repoussé, la sortie du film et la production avait été ralentie et repoussée pour plein de raisons différentes, et que maintenant cette allégorie-là, elle sonne beaucoup moins pertinente depuis l'élection de Trump, parce que dans le film, cette allégorie-là est un peu représentée comme un grand perdant. Est-ce que c'est quelque chose que tu confirmerais? Est-ce que tu trouves que le fait que le film est sorti trop tard par rapport à ce qu'il aurait dû se sent dans le film?
Non, parce que comme je le disais, en fait, c'est un aspect qui finalement est un peu... Et là, on le perçoit, il est présent, mais c'est pas non plus le côté éclatant. Voilà. Ce qui fait que... Même si je peux comprendre cette critique-là, pour moi, au contraire, il est d'autant plus d'actualité parce que déjà, en France, on n'y est pas encore. On a la chance que ce ne soit pas encore le cas. Et c'est aussi une manière de décribiliser, démystifier les institutions, parce que le pouvoir, il est symbolique. C'est un moyen de renverser la violence symbolique, et ça permet de mettre un peu fin au mythe de l'homme salvateur et de le ridiculiser. Au contraire, pour moi, il n'est pas trop tard, il est d'actualité.
Okay. Marie-Lou, qu'est-ce que ça t'évoque, ce film ?
Eh bien, plein de choses un peu contradictoires. Je pense que déjà, j'irai le voir par curiosité, parce qu'il y a Robert Pattinson dedans et Toni Collette, que j'aime beaucoup. Je sais pas, ce thème du fascisme qui revient, de la répétition de l'histoire et de la SF en même temps, ça m'interroge un peu, parce que c'est vrai que la montée des extrêmes, elle est réelle et elle cristallise beaucoup de choses.
De l'extrême droite.
De
l'extrême droite.
Oui. Mais en fait, j'ai du mal un peu à comprendre pourquoi on y associe que la SF, en fait, alors que je trouve que, en fait, cette montée de l'extrême droite, elle est beaucoup plus pernicieuse. Je pense qu'en fait, c'est une manière de faire passer la pilule avec du divertissement, alors que le thème est un peu grave. Du coup, pour moi, il y a un peu une dissonance, mais c'est très personnel, hein, mais voilà.
Chloé, rapidement.
Alors juste, je suis pas d'accord par rapport à ce que tu dis vis-à-vis de la SF, parce que justement, en fait, ce qui est intéressant avec la SF, c'est que ça permet de scénariser, de fictionnaliser des situations politiques contemporaines. Et c'est justement tout l'art de la SF. Je pense à Alain Damasio, par exemple, qui est un écrivain qui est assez connu pour ça, qui il y a pas longtemps a sorti La Vallée du Silicium sur la Silicon Valley, qui est un mélange de chroniques avec une approche un petit peu journalistique, où en fait, il part dans la fiction et dans le récit. Voilà, c'est la SF, pour moi, c'est un genre qui fait le pont entre les événements politiques actuels et le futur, en fait. Donc finalement, c'est assez fort. Je crois pas qu'on ait besoin de le réduire au divertissement. Après, par rapport à Mickey 17, je ne suis toujours pas allée le voir, parce que je confesse que quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai un traumatisme de Tenet qui est revenu. Vraiment, je sais pas, c'était la même esthétique. Pourtant, j'ai adoré Parasite, hein, je l'avais trouvé très subtil. Et donc là, quand j'ai vu l'affiche, le nouveau film de Bong Joon-ho, je me dis, oh, génial. Et quand j'ai vu la bande-annonce, je me dis, putain, c'est Nolan, merde. Ouais. Mais non, voilà. Donc là, tu m'as vraiment donné envie d'aller le voir. Donc je pense que je vais courir au cinéma très bientôt.
Ouais, le film est vraiment accessible.
Eh bien, c'est qu'Hugo a bien fait son travail. Mickey 17, le dernier film de Bong Joon-ho, l'affiche dans toutes les salles. Allez le voir, je crois qu'il est assez intriguant. Vous écoutez C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle de Radio Campus Paris sur le 93.9 FM à Paris et dans sa région.
Sculpture.
Littérature.
Musique.
C'est dans l'art sur Radio Campus Paris.
L'heure tourne et nous arrivons déjà à la dernière chronique de notre émission et on termine avec l'architecture en parlant de trois personnalités particulières. Marie-Lou, c'est à toi.
Merci Léa. Aujourd'hui, je vais vous parler architecture et pour ça, je vous emmène avec moi au Centre culturel canadien. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous poser une petite question. Est-ce que vous pouvez me citer le nom d'un homme architecte ?
Franck Gehry.
Okay. Non.
Ok.
J'avoue non.
Le Corbusier.
Voilà. Très bien. Est-ce que vous pouvez me citer maintenant le nom d'une femme architecte ?
La fameuse question.
C'est bien ce que je pensais. Nous sommes perdus. Heureusement, le Centre culturel canadien remédie à ce problème en mettant en avant non pas une, mais trois femmes qui ont beaucoup compté dans l'architecture de la deuxième moitié du XXe siècle dans une exposition. Je vous donne son nom, Histoire croisée, Gaë Aolenti, Ada Louise Huxtable et Phyllis Lambert sur l'architecture et la ville. Je vous avoue, je ne les connaissais pas non plus avant de voir cette exposition, alors bravo au centre pour leur mise en lumière dans un milieu encore largement dominé par les hommes. L'exposition en soi, elle est assez classique dans ce qu'elle propose, donc j'ai plutôt envie de vous parler d'elles, de ces femmes, de ce qui les distingue et de ce qui les rapproche dans leur rapport à l'architecture. Commençons par Ada Louise Huxtable, critique d'architecture au New York Times. Déjà, c'est la première critique en architecture ever, et c'est même la première critique journalistique à avoir travaillé à temps plein pour un journal aux États-Unis. Donc déjà, c'est la méga classe. Si aujourd'hui on débat de la préservation du patrimoine urbain, c'est en grande partie grâce à elle. En 1963, elle dénonce dans un article la destruction de la mythique gare Penn Station à New York, en disant notamment « Nous serons jugés non pas sur les monuments que nous construisons, mais sur ceux que nous démolissons ». Petit fun fact, pas très fun, elle a été commissaire d'exposition à plusieurs reprises au prestigieux MoMA de New York. Et comme c'était une femme, elle était aussi en charge du ménage avant l'arrivée des visiteurs du musée. Yes. Je vous laisse méditer là-dessus. Passons maintenant à Gaë Aolenti, de son nom complet Gaetana Aolenti, une architecte italienne. Son plus grand fait d'arme est d'avoir modestement supervisé l'aménagement intérieur du musée d'Orsay lors de son ouverture dans les années 80. Elle a l'idée de conserver une ligne qui traverse l'ancienne gare de part en part pour rappeler la ligne de chemin de fer, tout en y injectant des œuvres d'art de part et d'autre pour que les visiteurs puissent y déambuler et se déplacer de manière fluide sans trop d'indications. Ce qui m'a le plus marqué, c'est que j'ai appris lors de ma visite que la gare a failli être totalement rasée car jugée trop moche. Et ironiquement, certains voulaient y construire des barres d'immeubles à la place. Je termine ce trio de choc par Phyllis Lambert, architecte et activiste canadienne, qui est toujours vivante aujourd'hui et vient de fêter ses 98 printemps. Wow. Elle est la fille d'un très riche homme d'affaires qui, à la fin des années 50, souhaite faire construire de nouveaux bureaux pour son entreprise sur la très chic Park Avenue à Manhattan, celle qui longe Central Park. Phyllis, pas convaincue par les premiers plans du futur bâtiment, écrit une lettre enflammée à son père et finit par superviser elle-même l'appel d'offres. Un appel d'offres auquel répondent les plus grands architectes de l'époque d'ailleurs. Grâce à elle, le bâtiment final est sobre, moderne, respectueux de son environnement et de ses habitants, avec une esplanade publique et des œuvres d'art. Pour elle, l'architecture ne relève pas que du domaine privé, c'est un sujet qui doit impliquer les citoyens. En 1979, elle fonde même le Centre canadien d'architecture pour défendre et préserver le patrimoine montréalais, sa ville natale, qu'elle a beaucoup documenté. Ce qui lie finalement ces trois femmes, c'est que chacune à leur manière, elles ont contribué à la réflexion sur la conservation du patrimoine et sur la transformation de la ville. Pour elles, modernité ne voulait pas dire dénaturer, et elles avaient à cœur d'inclure les citoyens dans chaque projet. Plus important encore, elles ont porté le débat sur l'architecture et la ville, jusque sur la place publique. Voilà, donc si vous êtes amateuriste d'architecture, je vous conseille de voir cette exposition qui permet d'avoir un bon premier aperçu sur leur parcours.
Une exposition retraçant les destins et les œuvres de ces trois femmes ayant participé à la reconstruction d'après-guerre dans le monde. Merci Marie-Lou. Allez, passons aux réactions. Architecture, bâtiment, donc lieux dans lesquels on vit, et citoyenneté, ça vous évoque quoi ? Diane, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient ?
Oui, ça me fait penser à Villeneuve-la-Garenne, je crois. J'ai vu passer ça il n'y a pas longtemps. Il y a des débats qui sont en train d'être faits avec les citoyens, enfin avec les habitants de la ville, sur comment est-ce qu'ils construisent la ville et comment est-ce qu'ils réaménagent la ville pour que ce soit au service des habitants et pas juste des choix architecturaux. Quand tu parlais de quand ça a été rasé, etc., ça me faisait penser... Moi, je suis Tourangelle de naissance et en haut de la rue nationale, qui est la rue la commerçante de Tours, il y a quelques années, ça a été rasé ce qui a été fait et ils ont construit des grands hôtels Hilton. Voilà. Pour des raisons vraiment commerciales et capitalistes, parce que c'était une raison de... Ils ne pouvaient pas accueillir assez de personnes quand il y avait des congrès qui étaient à Tours. Et maintenant, ça me fait vraiment bizarre quand je vais à Tours, quand je vois des énormes hôtels Hilton comme ça, qui font je ne sais pas combien de kilomètres de mètres de haut, avec en plus la Loire juste à côté, qui est un truc très touristique, où il y a beaucoup, beaucoup de tourangeaux qui vont, même des étudiants, etc. La différence, elle est un peu... bizarre à voir, quoi. Et en plus, c'est pas du tout le maire actuel qui est très penché écologie qui a choisi ça, donc ça fait toujours un peu bizarre pour les Tourangeaux.
Hugo, une réaction ?
Oui, moi, plus que... Ça me fait penser, en fait, à la place que l'on occupe, nous, piétons, dans la ville, et la manière dont, en fait, nos corps sont cloisonnés. Quand on marche dans la ville, on a des tout petits trottoirs. En fait, nos villes sont construites autour de la voiture. Et je sais pas pour vous, mais moi, l'un de mes sentiments de puissance ou les plus joyeux, de bonheur que j'ai jamais ressenti, c'est quand je marche au milieu de la route en mode rien ne peut m'arrêter, rien n'est invincible, comme si je me réappropriais finalement l'espace. C'est un sentiment vraiment libérateur pour moi, libératoire même. Et ça m'évoque vraiment ça et la place que, en fait... Le problème que posent les voitures dans l'espace public, quelle place on leur donne et comment en fait permettre aux citoyens, à nos corps de se libérer aussi de ce poids qui nous est mis dessus. Et pour moi, ça doit vraiment être une question qui doit être prise au sérieux, notamment par la gauche.
C'est intéressant, c'est une question que je voulais vous poser justement par rapport à ce sujet. Vous sentez-vous que les lieux publics vous appartiennent ? Jeanne, c'est une sensation que tu as déjà... éprouvé.
Alors, c'est marrant parce que j'ai eu une conversation il n'y a pas si longtemps avec une amie qui travaille avec une association qui autour de la protection des femmes, etc. Et qui, cette association, dont je ne me rappelle pas le nom, désolée, organise des marches avec des femmes dans l'espace public. Et ces femmes, de tous les âges, de toutes les activités, parlent des difficultés qu'elles ont à exister dans l'espace public dans certaines villes, dans certaines rues. Par exemple, elles vont indiquer qu'il n'y a pas assez d'éclairage public, qu'il n'y a pas de place pour faire passer des poussettes ou que sais-je. Enfin, tout un tas de raisons qui fait que l'espace public n'est pas conçu dans certaines villes, enfin, je pense dans beaucoup d'endroits, en fait, pour la présence des femmes. Et qu'ensuite, cette association-là, elle s'occupe de faire remonter ça aux mairies. Et j'ai pas d'exemple, donc c'est vraiment des informations très approximatives. Mais qu'ensuite, les mairies concernées prennent ça en compte en disant, bah oui, d'accord. En fait, on replace le point de vue féminin et pour que l'espace public soit conçu pour tout le monde et voilà, pas que pour les hommes.
C'est quelque chose qui se gagne petit à petit. Chloé, il y a quelque chose que tu aimerais dire ?
Oui, alors je trouve que cette thématique d'appropriation de l'espace public, elle se reflète à un endroit assez intéressant et assez prosaïque, c'est les toilettes, tout simplement. Je pense qu'on a déjà tous fait en festival cette expérience, notamment en tant que femme, de faire la queue pendant des heures, alors que les hommes généralement n'attendent pas, parce que voilà, en fait, les toilettes, c'est un besoin simple et banal qui n'est pas approprié aux usages en fonction des genres. Et il y a un podcast, donc je parle bien des toilettes publiques, pas des toilettes privées, puisqu'on est sur la thématique du public. Et il y avait un podcast sur Arte Radio, il me semble, qui parlait de ça, vraiment, voilà, du pipi, quoi, de l'utilisation des toilettes. Et c'était à la fois drôle, politique et passionnant. Donc je vous encourage à aller écouter si vos oreilles sont curieuses.
Il y a plein d'axes de réflexion autour de ce sujet, c'est hyper intéressant.
Ouais, pour rappel, je me permets de rajouter un truc.
Allez, vas-y, rapidement.
Je me rappelle, à Toulouse, il y avait une manif et ils avaient cassé la pollution, enfin, ce que je peux appeler la pollution visuelle, c'est-à-dire, vous savez, les pubs qui affichent et qui un peu bouchent le paysage. Et il n'y avait en fait que le cadre et on voyait à travers et ça permet aussi de se réapproprier le quartier, mais aussi de le voir différemment. Ça libère vraiment la vue, ça permet de le voir sous un nouveau jour.
Merci beaucoup Hugo. Pour rappel, Marie-Lou vient de nous présenter l'exposition Histoire croisée sur l'architecture de la ville. Si ça vous tente, vous avez jusqu'au 17 mai pour aller la voir au Centre culturel canadien. Merci à toi Marie-Lou.
Merci à vous.
C'est dans l'art, c'est déjà fini pour ce soir et c'était comme d'habitude un plaisir d'être avec vous. Merci à vous Hugo, Diane, Marie-Lou, Jeanne et Chloé pour vos chroniques et vos réactions.
Merci.
Allez, j'espère bientôt vous revoir. Merci à Eléa à la technique. Le programme de la soirée se poursuit sur Radio Campus Paris. En attendant, retrouvez-nous sur radiocampusparis.org pour nous réécouter ou sur Instagram, on poste des choses, allez voir, c'est dans l'art RCP tout attaché. Portez-vous bien d'ici là et vive l'art sous toutes ses formes.
Retrouvez C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle sur radiocampusparis.org et sur toutes les plateformes de musique à la demande.